Voilà, on parle, ça marche. On parle
Bonjour,
bien.
nous sommes sur Aligre FM dans La vie est un roman. Et donc là, nous sommes dans mon salon. Je suis avec Karine Mirmont, qui a publié Marabout de Roche chez l'excellent éditeur L'Atelier Contemporain. Et Jean-Michel Yeut, à qui j'ai demandé de venir parce que nous allons parler de photographie et de poésie contemporaine. Deux domaines dans lesquels je n'ai pas un savoir assez conséquent pour entretenir une longue conversation. Salut Karine.
Salut Yves.
Et merci d'être venue. Donc, de quoi s'agit-il avec Marabout de Roche?
Oula, de quoi s'agit-il?
Quel est l'objet de ta quête dans Marabout de
Ah,
Roche?
je ne la connaissais pas avant de l'écrire, à dire vrai. Le point de départ, c'est la mort de Denis Roche, qui fut mon voisin pendant des années. Et qui a été une sorte de voisin, comme on peut avoir un voisin de façon banale, les relations de voisinage, l'arrosage de la cour quand il y a une cour, voilà, des choses comme ça, mais qui quand même était un voisin particulier. Et au fil du temps, on s'est connus davantage. Et puis, on a, disons, on s'est côtoyés sans trop parler d'écriture et de photographie, mais quand même un peu. Et puis moi, en parallèle, je menais un chemin qui m'éloignait d'un travail normal pour aller vers l'écriture. Et donc, à un moment, ça a croisé mon voisin et Denis Roche. Et puis, lorsqu'il est mort, eh bien, ça a assez vite, dans les semaines qui ont suivi, déclenché des notes. Je me suis mise à prendre des notes parce que ça venait, quoi, Et puis, assez rapidement, après, avec ces notes, ce titre est arrivé, en fait, Marabout de Roche. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, etc. Et puis, Marabout, c'est un tombeau aussi. Enfin, tout ça m'amusait, en fait. Et ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais que c'était une chance d'avoir côtoyé quelqu'un comme Denis Roche pendant presque 20 ans, dans une cour, dans une copropriété comme ça, et donc de pouvoir en parler peut-être, ou en tout cas écrire autour de ça. Le besoin était là, le désir était là, et il y avait une chance de forme presque. C'est-à-dire que quand ce titre est arrivé, Marabout de Roche, je me suis dit, ben voilà, je vais tenter quelque chose, je vais tenter d'écrire comme ça autour de Denis Roche de façon très impressionniste. Pas savante, parce que je ne suis pas savante sur Denis Roche, ni sur la photographie, même si j'ai une sensibilité, mais voilà, je ne suis pas universitaire sur le sujet, spécialiste, etc. Moi, je suis la voisine qui écrit, on va dire. Voilà, ça m'intéressait de tenter ça, et donc j'ai commencé de l'écrire, puis je l'ai mis de côté, et je l'ai repris à l'automne qui précédait la parution de Temps profond, donc il y a 2 ans. Je savais, c'était après la parution d'un livre pour lequel j'étais venue d'ailleurs dans La vie est un roman, qui était Grâce intrépide. Je m'étais dit, après l'été, je vais me remettre dans Marabout de Roche et puis on verra bien si ça tient ou pas. Et en fait, je me suis plongée dedans pendant les 3 mois de l'automne et je l'ai terminé. Voilà, Marabout de Roche,
Et
Roche
donc,
Gagné,
quand
Mille
on
Merles.
pense à Denis Roche, la première image qu'on a, c'est celle de l'éditeur, qui est un éditeur formidable. Enfin, formidable, c'est un éditeur qui a réussi une belle carrière d'éditeur. Il fait par exemple Le Nouveau Désordre Amoureux, il publie Asphalte, il publie Beauraire sur Rimbaud, il publie. Et il réussit un coup formidable en commandant ses mémoires sexuelles à Catherine Millet. Donc là, il passe vraiment à l'international. Il publie aussi les deux meilleurs livres de Thomas Pynchon. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît comme ça, quoi. Il publie Roubaud, enfin, donc il est dans l'avant-garde. Donc d'abord, il y a cet éditeur. Ensuite, il y a un poète qui finit par réunir toutes ses poésies dans un livre qui s'appelle La poésie est inadmissible. Et
D'ailleurs, elle
un.
n'existe pas.
Hein?
D'ailleurs, elle n'existe pas.
D'ailleurs, elle n'existe
La
pas.
dernière mouture.
Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui s'occupe de photos. Et donc, c'est ça qui. Tu penses que c'est la photo qui fait l'axe central pour toi?
Non. Enfin, pour moi, c'est très important la photographie. Et pour Denis Roche, c'est évident. C'est un photographe. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui écrit. y compris avec la photographie. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, pour moi, à un moment d'ailleurs dans Marabout de Roche, la phrase me vient toute simple. Il n'a jamais cessé d'écrire. Denis Roche n'a jamais cessé d'écrire. C'est vraiment comme ça que j'ai fini par... Mais disons que chemin faisant, en regardant aussi bien, tu as raison évidemment, l'éditeur, l'écrivain, le poète, même s'il n'aimait pas ce terme, en tout cas l'écrivain, et le photographe, il y a un rapport éminemment littéraire, avec des guillemets, parce qu'il se méfiait de la littérature, et c'est pour ça qu'il me disait « j'espère que tu ne lis pas que de la littérature ». Mais je dirais que c'est... La photographie, elle va avec l'écriture, elle va avec son métier d'éditeur aussi, parce qu'il avait une façon très ouverte d'éditer et de vraiment laisser, enfin semble-t-il, les auteurs sur des chemins très différents, très ouverts. Et ça, c'est assez formidable.
Est-ce que pour lui, la photographie sont d'une certaine façon des prélèvements? C'est-à-dire que ça en fait aussi des dépôts de savoir. Et ça fait rentrer du coup la photographie dans une démarche littéraire. Du simple fait que que ça permet des dépôts de savoir. C'est J'ai vrai. Un peu cette impression-là, qu'il y a cette idée-là chez lui. Quoi. Mais du coup, il étend le sens du mot littérature de façon quasiment asymptotique. Et pas seulement à des genres, à des objets, etc., je pense. Quoi. C'est la façon dont il documente de façon très très précise des situations uniques et répétitives, le fameux avec sa femme, etc., etc., etc. On sait ce que c'est que le temps, on n'a pas besoin de ça. Ce que je trouve très étrange, c'est le transport de quelque chose qui est de la théorie pure dans l'image. Et je me demande si ce n'est pas aussi une question d'époque, c'est contemporain du structuralisme.
Alors là, ça devient...
Qui a mis en avant, un carton de la linguistique, mais a été pratiqué par des anthropologues qui n'ont, même si Lévi-Strauss a fait quelques mois de terrain, en fait, ne faisaient jamais de terrain. Alors que Denis Roche, par rapport à ce qu'il raconte, à ce qu'il montre, etc., fait tout le temps du terrain. Mais il y a ce théoricisme qui règne.
Alors moi, je ne l'appellerais pas théoricisme pour lui, parce que c'est quelqu'un qui se méfiait beaucoup des théories, des choses trop savantes.
Il y a le côté pulsionnel aussi qui est revendiqué chez lui.
Du blabla universitaire ou du charabia ou du jargon. Il se méfiait de tout ça. Il se méfiait même, il pourrait se méfier là s'il était avec nous, parce qu'on parle beaucoup de son œuvre et en fait, il préférerait qu'on ne parle pas, qu'on la lise, qu'on la regarde. Et ce qui l'intéressait d'ailleurs dans la photographie, il y avait une dimension qui était la dimension du silence qui l'intéressait. Est-ce que c'était parce qu'il trouvait que la littérature ou le milieu littéraire ou le milieu du livre était finalement trop bavard et que ce qu'il aimait dans la photo, il y a une photo devant laquelle il dit qu'il y a tellement de silence dans cette photographie, et ça l'intéresse, ça, qu'il y ait du silence dans les photographies, et que finalement, ceux qui regardent se font le texte qu'ils souhaitent, mais en tout cas, le silence est très précieux. Donc, il y a ce rapport au silence qui est important et qui doit sûrement venir de Blanchot, de gens comme ça, de théorie, c'est un matérialiste, Denis Roche, c'est quelqu'un qui revient sur le concret, qui revient sur des choses très... Il aime l'écriture sèche, il aime... j'ai du mal, moi, à partir sur un chemin trop théorique, d'abord parce que je n'ai pas les outils que vous avez, même si j'ai lu de l'anthropologie et si j'ai lu Lévi-Strauss. C'est quelqu'un, dans son écriture, quand on lit certains textes de Denis Roche, que moi j'aime beaucoup, il a même un côté tout le temps... Il va donner une image, il est en train d'écrire et il va raconter que c'est comme s'il était sur une montagne ou sur une colline et il va raconter que même faire de la photo ou faire tel texte ou même tel dépôt de savoir et de technique, c'est comme s'il rassemblait des joncs ou des roseaux. Il a tout le temps des métaphores comme ça qui sont très concrètes. très concrète. Là, il n'y en a pas d'autres qui me viennent.
Mais en même temps, un, il a fait partie tel quel. Et deux, c'est un as du commentaire. Il fait un livre avec 100 photos qu'il va commenter.
Oui, absolument. Et qui est un très beau livre, qui est Le Boîtier de Mélancolie. Un livre avec des textes absolument magnifiques. Mais il est très paradoxal, bien sûr.
Absolument. Il est extrêmement charmant, on devrait peut-être le dire, parce que quand on le voit en image ou qu'on entend sa voix, c'est vraiment un type très, très agréable.
Oui, c'est vrai.
Et donc, toi, tu es dans la cour, tu parles avec cet homme, et on voit que c'est quand même un objet qui est difficile à cerner. Bon, alors, Le Temps Retrouvé, par exemple, je n'ai pas pu le lire parce qu'il n'y en a aucun exemplaire dans les bibliothèques parisiennes. Ça a l'air assez trivial dans l'image que je m'en fais.
Le Temps Arrêté, tu
vois. Arrêté. Ouais. C'est un livre où il raconte comment il fait jouir sa femme, c'est ça, en gros.
Le Temps Profond.
Le Temps Profond.
Pas seulement, non, du tout. C'est un journal.
C'est un journal, c'est ça.
Et il se trouve qu'il y a beaucoup de scènes, effectivement, sexuelles avec sa femme, mais il y a énormément, il y a plein d'autres choses.
Parce que dans tout ce que j'ai vu, moi, dans tout ce que j'ai vu, moi, enfin, la poésie, par exemple, elle est très formaliste et il y a très, très peu de contenu. Enfin, il n'y a pas de contenu du tout. Il n'y a pas une phrase qu'on peut citer. Il n'y a rien. Et dans les livres de photos, on est dans l'ordre du commentaire.
Je pourrais montrer qu'il y en a en lisant. Hein.
Oui, je pense qu'il y en a, en fait. Ouais.
Mais alors, donc toi, tu cherches, en écrivant le livre, tu cherches cet objet, tu cherches à cerner quelque chose. Est-ce que ça t'échappe ou tu l'as sous la main? Est-ce que tu as...
Le Marabout de Roche part d'une perte, d'une mort, comme L'Année du Chat partait de la mort du chat, en fait. Il y a une perte, comme ça, et tout à coup... Je mesure presque mon attachement à mon voisin, d'une certaine façon. Et là où, avant, un peu, je m'interdisais de trop m'intéresser à lui en tant qu'éditeur, en tant que photographe, parce que c'était mon voisin et que je ne voulais pas... Mais c'était complètement instinctif, ça. Je ne voulais pas tomber dans des rapports de milieu, de mondanité ou de trucs comme ça. Je déteste ce genre de trucs.
Qui peuvent sembler à l'autre mal élevé, simplement.
Et puis, voilà.
L'importuner, quoi.
Et puis, Denis, tout comme Françoise, d'ailleurs, sont des individus qui... Il y a une forme de distance. Et moi, ça me va bien, d'une certaine manière, parce que moi, je suis un peu comme ça, aussi. À ma manière, mais j'aime bien, finalement. Moi, quand je suis avec des amis ou des gens que je ne connais pas, où je pose pas de questions, je passe mon temps à observer. J'observe et puis j'accumule des indices comme ça, et puis je me fais une idée, et puis après, les choses... Je ne vais pas mitrailler de questions. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Et donc, du coup, avec mon voisin, c'était pareil. Je lui posais quasiment aucune question. D'une certaine manière, je ne me permettais pas, je n'avais pas envie de l'embêter avec mes questions. Donc, on parlait plutôt des plantes, comment on arrose, machin, hein. Bon, puis à un moment, on s'est mis à parler d'écriture parce qu'il a lu les premiers textes que j'avais écrits et que, voilà, il y avait... Bon. Mais vraiment, c'était par petites touches et il a fallu qu'il meure, d'une certaine manière, pour que je me dise, mais mince, je voudrais en savoir plus. C'était un peu trop tard, puisqu'il n'était plus là. Mais la grande chance, c'était que mon voisin, il avait laissé beaucoup de traces. Et donc, je me suis mise à... Je suis partie à la recherche, comme ça. J'avais commencé la dernière année de vie de Denis Roche, donc en 2015. J'avais commencé, d'ailleurs, je lui avais dit, tiens, je lis Louve Basse. Tiens, voilà. Et puis, on en avait, mais franchement, très peu parlé. Après, donc, à partir du moment où j'ai commencé le Marabout de Roche, je me suis dit que cette enquête comme ça, enfin, je me le suis dit, je le sentais, c'était intéressant parce qu'il y avait un côté aussi presque candide, naïf, c'est-à-dire, je sais pas, je cherche, c'est mon voisin, je regarde les photos, je lis les livres, il se trouve que j'écris, donc et donc, en le faisant, je me disais, tiens, mais en fait, c'est peut-être un livre, autrement dit, ça peut peut-être être quelque chose non seulement que j'écris, mais qui pourra être lu, qui aura du sens, voilà. Et chemin faisant, au fur et à mesure, presque c'était de plus en plus intéressant, en fait, parce que je trouvais des choses, je finissais par comprendre pourquoi Denis avait aimé le manuscrit de L'Année du Chat, qui est devenu un livre, et pour lequel... Il n'est pas pour rien que c'est devenu un livre chez Fiction et Compagnie, parce que quand il a lu le manuscrit, Il m'a dit, tu l'envoies à personne, et puis tu vas l'envoyer au Seuil, et puis tu verras bien, et tout ça. Et puis c'est passé au comité de lecture au Seuil, et puis chez Fiction et compagnie, et tout ça. Donc il a déclenché le premier livre, donc c'est pas rien pour moi, même s'il n'était plus au Seuil, en fait, à ce moment-là. Mais voilà, je ne sais plus quelle était ta question.
Ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous racontes ce qu'il y a dans le livre. Et donc, tu parles des boîtes, il avait des boîtes chez lui. Alors, tu as parlé de son aspect matérialiste, oui. Tu as dit. Tu peux nous parler de ces boîtes qu'il avait chez lui?
Alors, les boîtes...
Elles avaient quel format? Comment c'était?
C'est un format de boîte. Ce sont des boîtes de chez Derol qui sont faites normalement pour mettre des papillons, des scarabées. D'accord. Voilà, c'est des boîtes de chez Derol. Et dedans, avec le cadre noir, comme ça, c'est très beau comme objet, déjà. Et il a commencé à faire ça à peu près au moment où je suis arrivée à la fabrique. Enfin, ça n'a rien à voir, mais il se trouve que c'est le même timing. Je crois qu'il a commencé en 95 et nous, moi, je suis arrivée en 96 à la fabrique. Donc, il a fait à peu près 20 ans de boîte. Une boîte par année. Mais ça, je ne le savais pas au début du Marabout de Roche. Je l'ai appris plus tard, après sa mort. Et chacune des boîtes contient des objets, donc le côté aussi très concret, qui se rattachent à un souvenir, quelque chose qu'il a fait parce qu'il est allé au cinéma. C'est le pass du Centre Pompidou, c'est le ticket de cinéma, c'est une écriture qu'il trouve belle, une typographie, c'est le carton, je sais pas, d'un mariage, c'est... c'est toutes sortes de tout est c'est une lanterne japonaise là, les petites lanternes du Japon, les fleurs séchées, paf, il y en a une comme ça. C'est tout ce qu'il voulait qu'il accrochait là. Donc des textes, des objets, des images, un papillon, pourquoi pas, mais pas forcément. Et ça représentait une année. Donc c'était, y a une exposition de Denis Roche à la Maison Européenne de la Photographie en 2000 ou 2001 je crois, qui s'appelle, il y a un catalogue qui va avec, qui s'appelle Preuves du temps. Les boîtes, c'était complètement privé. C'est quelque chose qu'il n'a pas photographié, ces boîtes, et il n'a pas souhaité qu'elles soient vues par d'autres que ceux, que sa famille ou ceux qui passaient dans sa maison. Donc ça c'est important, et la boîte qui est décrite dans Marabout de Roche, c'est une boîte fictive, c'est-à-dire je l'ai inventée je l'ai faite, mais elle n'existe pas, celle-ci.
Bon. Pour respecter cette
alors intimité. Non, pas du tout. C'est marrant, c'est-à-dire que quand je l'ai écrite, la boîte, c'était quelques mois après la mort de Denis, et moi j'avais aperçu les boîtes à chaque fois que je passais dans la maison, mais tout comme on ne parlait pas, je ne le questionnais pas, je ne m'approchais pas trop des boîtes non plus parce que je sentais que c'était un truc intime. Donc, je ne m'étais pas permis de regarder précisément, encore moins de poser des questions sur les boîtes. Et donc, depuis mon point de vue de voisine, j'ai écrit l'histoire d'une boîte en me souvenant qu'il y avait un ticket de MK2, enfin de cinéma, qui avait ceci, cela, et j'ai fait qu'est-ce que c'était, qu'il y avait un souvenir des tourelles au Crotoy avec une chambre d'hôtel et tout ça, mais ça n'existe pas, ça, c'est juste parce que je me souvenais qu'il y avait des éléments.
Ça me semble bien que tu dis on apprend beaucoup en ne posant pas de questions.
Exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est exactement ça. Donc j'ai fait la boîte, et je comprends le jour de la cérémonie, c'est-à-dire le 8 septembre, il y a exactement... On est combien aujourd'hui? Bon, peu importe. En septembre. Voilà.
On est le 8 aujourd'hui.
On est le 8 septembre.
Ouais. On est anniversaire.
Et donc, voilà. Il y a la cérémonie au Père Lachaise pour l'enterrement de Denis, qui n'est pas un enterrement, puisqu'il y a une crémation. Mais enfin, voilà. Et ce jour-là, il y a un des fils de Denis Roche qui fait un discours et qui parle des boîtes. Et là, je comprends que c'est une boîte par année. Alors que moi, je vais... Et voilà, et le truc est résolu. Mais moi, de toute façon, entre-temps, j'ai déjà écrit la boîte fictive. Donc, voilà. Donc, voilà les boîtes. Donc, il y en a une vingtaine. Et on ne peut pas les voir parce que c'est quelque chose de très intime. Et d'ailleurs, sur la couverture, la première question de l'éditeur François-Marie Derol de l'Atelier Contemporain était est-ce que... on peut photographier une boîte, Et Françoise a dit fort justement, non, les boîtes, c'est pas possible. Denis m'a toujours dit que c'était quelque chose d'intime qu'il fallait pas qu'on voit. Donc, on ne voit pas des boîtes. On voit juste dans le texte de Marabout de Roche une boîte racontée qui pourrait être une boîte faite par Denis Roche, mais il se trouve que non.
Voilà. Et alors, une autre question, il était obsédé par la mort, ça te parle, c'est ce qu'on, tu peux nous faire un petit topo sur cette obsession?
Je ne sais pas s'il aurait dit je suis obsédé par la mort, mais pour lui, la mort était quasiment, il le dit, je n'ai plus ces mots là exactement, donc je ne vais pas le citer, mais il dit que la mort, c'est un des sujets principaux, sinon le sujet principal de ceux qui prétendent écrire ou faire de l'art en général. C'est un...
Par exemple, la photographie a un rapport toujours avec la mort.
Toujours.
Non.
Non, parce qu'il a fait plein de recherches autour de la photographie, le reflet, mais la mort est quelque chose d'omniprésent. Et d'ailleurs, à un moment, je cite un texte de lui où il dit que faire un livre, c'est comme taper à la porte d'une tombe et voir ce qu'il y a dedans, etc. Ce qui est assez drôle parce que ça fait écho directement à ce que j'essaie de faire dans Marabout de Roche, c'est-à-dire que je viens taper, effectivement, okay, c'est le moins qu'on puisse dire, de façon littérale, à la porte.
Et tu écris un tombeau.
De la mort, et j'écris effectivement un tombeau. Il se trouve que marabout, ça veut aussi dire tombeau. Mais, oui. Donc,
C'est un tombeau des saints.
Et donc, Yayotte m'a dit que le Carnac était formidable, là, le livre de Denis Roche.
Ah oui, c'est gros.
Vas-y, parle-en.
Ça a été. Disons que ça a été le premier livre. Pas la première démarche, absolument. Il reproduit un texte d'un monsieur du XVIIIe siècle qui dit que c'est pas des géants qui ont lancé des pierres. Bon. Ça a été pratiquement la première approche globale des monolithes dressés, d'un point de vue, et dans une optique historique et scientifique. Quoi. Avant, on ne se posait pas trop de questions pour savoir ce que c'était. Hein. On a supposé longtemps que c'était des monuments chrétiens. Et surtout, on les a traités comme des installations isolées. C'est lui qui a établi leur fonctionnement global. Il est vraisemblable que les dolmens et les menhirs de toute la Bretagne entière, et peut-être même jusqu'au Pays de Galles, fonctionnent ensemble, sont une seule même installation.
Ah oui, ouais. Je savais pas ça.
Voilà. C'est,
mais donc là, donc
c'est un livre très 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 important, c'est un livre scientifique.
Quoi. C'est un livre qui a un contenu, là il y a du contenu
historique, et ethnologique.
Oui.
Quoi, voilà.
Oui, parce qu'ils sont allés regarder, décrire, ils sont deux, ils ont fait des photos. Alors moi après ce livre, je ne l'ai découvert qu'après avoir terminé l'écriture de Marabout de Roche. Puisque je l'ai découvert finalement il y a plusieurs mois, là, mais il n'y a pas si longtemps. Et ça m'a amusée dans un premier temps parce que tout à coup, je me suis dit, j'ai entendu Roche comme Pierre. Et je me suis dit, c'est quand même, on est encore dans Marabout de Roche.
D'une certaine,
exactement.
Du lacanisme.
On est encore dans Marabout de Roche puisque une des premières démarches que fait Denis Roche, c'est d'aller vers ces pierres et d'être fasciné par ces pierres, lui qui s'appelle Roche. Et alors, je regrette drôlement qu'il n'y ait pas dans Marabout de Roche cette histoire-là que j'aurais bien aimé creuser,
Il y a quelque chose de terrible avec Marabout, c'est que quand tu reviens toujours sur le fait, il dit il ne faut pas lire que de la littérature. Il faut lire aussi des Marabout Flash. Tu connais cette collection?
Non.
Non. C'était dans les années 60. C'était Marabout, c'est l'éditeur belge. Alors, c'était des petits livres carrés, comme ça. Alors, les sujets, c'était « J'apprends le serbo-croate en 10 leçons », « Les danses de salon ».
Les trucs de bricolage.
Les trucs de bricolage,
Je connais les trucs de bricolage, voilà. Absolument, je vois.
Et moi, quand j'ai vu ton titre, immédiatement, je me suis dit « Ah, mais les Marabout Flash
!» Ah oui, alors, écoute, je n'ai pas la prétention de tout dire, encore une fois, d'ailleurs, je le dis dans
sur
le texte.
Sur les Marabouts.
Ni sur les Marabouts, ni sur Roche. Ni sur Pierre, voilà. Donc, c'est pas un flash dans ce sens-là. Après, s'il y a des flashs dedans, tant mieux.
Mais peut-être que lui, il y pensait.
Au marabout. Je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas. Malheureusement, il n'a pas lu ce texte, Marabout de Roche. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Enfin, on ne peut rien dire là-dessus. Mais si, ce que je peux dire, peut-être, c'est que ce texte, une fois que c'est devenu un livre, donc. Au mois de juin, je l'ai envoyé à Christian Prigent, que je ne connais pas, et dont j'avais quasiment rien lu. Et il se trouve que dans Marabout de Roche, Prigent intervient sous forme de rêve. C'est-à-dire, je rêve que Denis Roche.
Ah oui, puis il est sévère.
Le met en contact Prigent. Avec Prigent, puisque Roche m'appelle dans le rêve et me dit juste Prigent de suite. Il raccroche. Et je sais dans le rêve. Alors tout ça, ça a plein de significations, parce qu'il se trouve que Roche aimait beaucoup les rêves, il a écrit là-dessus, etc. Bon, mais c'est vrai, par contre, ça, c'est pas fictif, c'est un vrai rêve. C'est un vrai rêve que je raconte, c'est tout à fait... Et Prigent de suite, et je sais que ça veut dire que... Je sais que dans mon rêve, comme on le sait parfois, on sait qu'il y a quelqu'un qui est présent, mais en fait, il est mort, mais on le sait dans le rêve, mais tout est normal. Bon, alors là, c'est pareil. Je sais que Denis est mort, qu'il m'a laissé du papier et un crayon, et des crayons pour écrire, bon, et que... en face, chez lui, vont passer ses amis, et que le premier, qui... il va y avoir Roubaud, il va y avoir Asfeld, peut-être, ou je ne sais pas. Mais celui-là, Prigent de suite, c'est Christian Prigent, dont je ne connais pas du tout les textes et tout ça. Et je pars de ça, et je cherche un peu Prigent, du coup. Bon, et de fil en aiguille, je tombe sur, l'année de la mort de Denis Roche. Il y a une revue, qui est une belle revue qui s'appelle Métré. Il y en a une qui s'appelle Dire une photographie, enfin un numéro, qui paraît justement en 2015. Et en regard, il y a un texte de Prigent, une photo de Roche, à l'imprimerie. Et donc, je pars de ça. Bon. Bref, quand Marabout de Roche devient un livre, là, il n'y a pas très longtemps, il y a au mois de juin, je l'envoie à Christian Prigent en me disant quand même, ça a du sens, ça l'amusera peut-être de lire Marabout de Roche. Et quelques semaines après, je reçois un mot de Christian Prigent, avec son livre Chino au jardin, qu'il m'envoie en me disant « Puisque vous n'avez rien lu, si vous voulez, vous pouvez lire. Et en tout cas, vous pouvez lire de telle page à telle page, il y a un portrait de Denis Roche. » Et formidable, dans le texte de Prigent Chino au jardin, il y a en effet un portrait de Denis Roche qui ne dit pas exactement son nom, Denis Roche, parce que comme il dit, il l'abrège en O, et tout comme il abrège Ponge en C, mais on les retrouve. Et donc Roche, et à un moment, il fait du marabout de Roche, Prigent, puisqu'il dit Denis, D-E-U-X, ni, N-I-D-S, les nids comme les nids d'oiseaux, qui est quelque chose que je fais dans le texte. Donc ça, c'est assez...
Mais c'est sa spécialité, à Prigent.
Tout d'un coup, des passerelles incroyables, et surtout, Prigent qui me dit, pour revenir à est-ce que c'est un marabout de flash ou pas, bon, ça n'en est certainement pas un, mais en tout cas, Christian Prigent me disant, dans la lettre qu'il m'envoie, que en lisant ce texte, il a l'impression d'avoir Denis à côté de lui. Voilà. Et ça, bon, c'est...
Voilà. C'est ça, là, tu dis, par exemple, dans ton livre que vous discutez du Les Bienveillantes de Littell. Tu vois, donc on a... C'est un livre qu'il aurait pu éditer. Et c'est le dernier livre que j'ai lu, qui est écrit en français, qui m'a impressionné, comme vous. Et puis, tu parles de Godard, Lettre à Freddy Buach, enfin, des choses comme ça, ou Marguerite Duras. Donc, on a un portrait chinois de cet éditeur, malgré tout, donc tu le cernes avec des traits relativement fins, mais qui sont aussi très matériels, enfin, qui sont des références, ça finit par faire un portrait. Prigent te dit qu'on a l'impression d'avoir Denis Roche à côté de soi, c'est bien le sens de l'exercice, c'est d'évoquer, de faire venir ce fantôme, et puis qu'il vienne et qu'il soit là, et... Parce que nous, avec Yot, on a passé l'été à poursuivre ce Denis Roche. Donc,
ah, c'est vrai.
Ouais, et il est assez fantomatique, on doit reconnaître. Hein, qu'est-ce que tu en penses?
À poursuivre, c'est-à-dire
À essayer de cerner, à voir ce qui c'était, à se poser des questions. J'ai une hypothèse, moi, par exemple, générationnelle, sur sa poésie, tout ça. C'est c'est un curetage, il nettoie. La génération précédente était d'une lourdeur épouvantable, d'un lyrisme...
Moi, c'est ce que je pense maintenant.
D'un lyrisme fou, là, tu vois, la génération de la résistance.
À l'époque...
Moralisateur, extrêmement présente, mais dans une version ancienne.
Il nettoie. Il dégage toute une espèce de lyrisme faisandé. Parce que la poésie a survécu. elle continue, elle existe.
Après, ça dépend. Qu'est-ce
qu'on appelle poésie?
On peut dire. Alors, c'est très marrant parce qu'il y a des nettoyages. Moi, c'est ce qui m'a intéressé chez Denis Roche, c'est vraiment le nettoyeur. Le nettoyeur, c'est aussi les tueurs. C'est le nettoyeur de la poésie en France. Il y en a eu déjà avant lui, un mec comme Sandrars, avec des démarches très comparables. Avant Apollinaire, schlac, il périme je ne sais combien de choses poussiéreuses, de types qui se recopient les uns les autres, etc., etc., etc. Et il rend tout possible dans la poésie, Sandrars. Il en étend le champ. Et toute son œuvre, c'est fou, parce que quand tu prends l'œuvre complète de Sandrars, il n'arrête pas d'expérimenter toute sa vie. Toute sa vie. C'est un premier Denis Roche.
On a un syndrome français.
Et c'est français.
Tu as un bouquin de Roubaud qui s'appelle La vieillesse d'Alexandre. Où c'est le passage à la prose de Rimbaud qui fait date. Donc on est en tournant rond là. Je voudrais pas perdre de vue ton livre. De quoi n'a-t-on pas parlé encore qui est dans le livre? Qu'est-ce qui te paraît encore? Oui, il y a le voisinage, les autres voisins, genre un peintre.
Avant les voisins,
les directeurs d'art presse, ce milieu.
Avant les voisins, quand même, juste puisqu'on parlait de poésie. Lui, il parlait plutôt de... On parlait d'écriture, en tout cas, quand on parlait plutôt, pour ouvrir davantage, et puisqu'il se méfiait beaucoup des poètes. Voilà. Je pense que c'est très difficile de le résumer. Moi, je trouve qu'à un moment, je crois que je le dis dans Marabout de Roche, c'était un chercheur, et il aimait bien, si d'autres cherchaient autour de lui, il les éditait, Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre de la table rase chez lui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. C'est-à-dire, il y a un nettoyage, ouverture maximale, si possible, des possibles, comme ça, pour chercher. Il y a le lyrisme au sens de l'oreille, le chant, les mots. Et il adorait. Il aimait beaucoup Ezra Pound ou des gens comme ça.
Il revient à la matérialité de la poésie. Il bazarde le message, quoi. Le blabla.
Mais il y a aussi une autre dimension qui est l'écriture. L'écriture sèche ou l'écriture précise qui ne va pas en rajouter et qui à la fois cherche quelque chose. À l'oreille, les silences. Enfin, il y a plein de dimensions, mais il n'y a pas la. Il n'aimait pas le côté. La mièvrerie, voilà. La mièvrerie qu'il peut y avoir dans la poésie, par exemple. Tu parlais de Sandrars. On ne peut pas dire que les textes de Sandrars, par exemple, soient mièvres.
Ah non.
C'est quelque chose qui me touche parce que d'abord il y a plein de textes contemporains ou pas qui dès qu'ils sont mièvres, moi ça m'agace. Et je pense que dans plein de textes de Denis Roche aussi c'est vrai. Il conserve quand même, pas dans les trucs les plus de recherche, dépôts de savoir et technique, les trucs qui sont coupés, tronqués, Mais quand il écrit des textes, d'ailleurs plutôt sur la fin, quand il écrit des textes ou même dans le boîtier de mélancolie où c'est extrêmement bien écrit, c'est vraiment des très beaux textes qui accompagnent le boîtier de mélancolie. Moi, régulièrement, je les relis. Il n'y a aucune mièvrerie dedans, il n'y a aucune. Mais il croit en l'écriture. Quand il écrit ses textes, là. Alors que quand il est dans Dépôt de savoir et de technique, etc., il est dans le nettoyage, le machin, il décrasse. Et du coup, c'est extrêmement. Quand on lit ça, moi, ça me déstabilise ce genre de texte parce que je me dis, ça vaut plus rien, c'est pas la peine d'écrire, quoi. Mais moi, comme j'y crois toujours, je continue. Et quand je lis une partie des textes de Roche, il y a une partie des textes de Roche qui croit. En écriture, qui ne sont pas qu'une entreprise
de désengagement. Mais dans le boîtier de mélancolie, il met son écriture au service du propos.
Oui.
Et il écrit oui. tout à fait. Normalement, il écrit, si il c'est écrit, un sens de dire ça.
Il écrit une prose classique absolument admirable.
Il écrit une prose classique qui est admirable.
C'est-à-dire que il y a
et
pas.
Et moi, j'y tiens beaucoup.
Tu sais, c'est ça aussi, c'est ce qui m'avait plu de, quand il a dans la traduction qu'il avait faite de la baisse et de la lecture d'Ezra Pound. C'est Ezra Pound rend cet exercice. Prenez un peu votre poème célèbre le préféré. Rayez les mots inutiles.
Oui, oui, oui.
Voilà. Voilà, c'est ça.
Et à un moment,
ça et la dépersonnalisation. Tu évoques aussi, on n'a pas parlé, des machines chez Denis Roche. Et la machine, les machines, l'appareil photo, des choses comme ça, etc.
Ou les dispositifs, qui font à sa place.
C'est une procédure de dépersonnalisation. C'est une attaque contre le lyrisme. C'est comme si la machine avait fait le boulot.
Soi-disant. Mais ou bien que les oui. conditions, les circonstances, tout d'un coup, oui. comme avec la photo, oui. mais même aussi avec l'écriture, génèrent un truc. Et ouais. alors, je sais qu'il n'aimait pas ce terme générer. Produisent une situation, hop, clac, et ça se fait. Et il aime ça aussi. Mais il n'en demeure pas moins que dans plein de textes, et même dans les photographies, ou dans sa il reste. Une part de lui qui est classique. Je veux dire ça,
oui.
mais moi je
ne
le crois pas. Classique au sens traditionnel.
Les photos des pyramides.
Oui.
Les photos des pyramides qu'il a faites. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Égypte. Hein. Les photos des pyramides qu'il a faites, c'est les photos de quelqu'un qui sent tellement bien le paysage, qui montre comment on les voit réellement et non pas le préjugé qu'on a, le préjugé qu'on a de comment on les voit quand on les aborde. Il les photographie vraiment comme on les voit. C'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose. On a le nez dessus.
On a le nez dessus.
Et on est dans un car de touriste et il y a le reflet.
Il est dans un taxi. Il raconte l'anecdote comment il demande au chauffeur de taxi d'accélérer.
C'est parmi les plus belles photos.
La photo est là. Voilà. Tu vois, donc ça, c'est aussi tout d'un coup un concours de circonstances. Ouais. Ou comme quand il demande à un de ses amis, il le dit dans Temps profond et je le cite. Il demande à son ami, mais alors qu'est-ce que tu penses de ce que je fais en écriture et tout ça? Et l'autre lui répond, ta démarche est totalement pure, et puis il lui dit autre chose. Et là, Roche dit, je l'écoute me parler de moi, et il me dit qu'il faut que je continue. Bon, il doit avoir raison, hop, je continue. Il se met dans des situations, parfois, en photo ou en écriture, il fait comme si les éléments décidaient pour lui, ou l'entour désigne, je ne sais pas si ça se dit l'entour, mais là l'entour...
En même temps, il a un côté écrivain américain, c'est le côté d'Achel Hamet, là je pense à ça maintenant, qu'on est en train d'en parler, à son goût pour les chambres d'hôtel. Il a fait énormément de chambres d'hôtel, tout ça, et c'est quand même pas si courant que ça. Il y a deux personnes, ça me fait penser au roman noir américain des années 30, et ça me fait penser à Margaret Duras.
Ouais.
Mais tu vois, dans un aspect très propre, comme ça, un aspect. Il y a peu de rapport affectif quand tu es dans une chambre d'hôtel.
En tout cas, un aspect dépaysé.
Tu es dépaysé, tu es dans un contexte dans lequel tu dois à chaque fois t'adapter et tu dois. Il te pense comme extérieur, quoi, le contexte. Donc, tu as cette espèce d'extériorité. C'est ce qu'il a l'air de chercher aussi par rapport à la photo. Comme il y a 100 photos, il y a des photos qui sont un petit peu lourdes, mais dans l'ensemble...
Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ces photos, il a l'idée de la mort. Et moi, je sais que, par exemple, dans les photos, moi, je vois les spectres, c'est-à-dire des revenants. C'est des photos d'un certain moment. Moi, ou, je sais pas, Yves, il y a 25 ans. Et les spectres sont là, ils sont dans le présent vivant. Et la photo, elle dure, parce qu'il voit la photo comme instantanée. Mais c'est un instantané qui dure.
Oui.
Qui est là, qu'on l'a sous les yeux, puis il dure.
C'est instantané, mais c'est pour ça que son expo à la Maison Européenne de la Photographie s'appelait l'épreuve du temps, quand même.
Ouais.
C'est-à-dire que quand même...
Et c'est pour ça que la photo, pas plus que la poésie, n'existe. La photo n'existe pas parce que ce qu'elle montre n'existe pas. C'est un instant fictif, c'est tellement bref. C'est un instantané. Les instantanés, les choses, elles existent dans une durée, dans un développement, dans un changement.
Ouais.
Pour dire que le cinéma existe, pas la photo.
Je ne sais pas.
La photo montre quelque chose qui n'existe pas. Quoi. Moi, je vois ça comme ça plutôt que la mort.
Oui,
une fiction, elle montre une fiction. Quoi.
Oui,
nécessairement, elle n'a pas le choix.
Et alors les autres voisins, le contexte, le bâtiment,
on commence par ça, oui, on rentre dans la fabrique, en fait, d'une certaine façon. Voilà. On rentre dans ce bâtiment qui est très particulier, qui est un ancien bâtiment de travail et qui a été investi, dont l'activité dernière était de couper du marbre et de le stocker. Et dans les années, la fin des années 70, vers 79, ils ont arrêté l'exploitation de ça. Et ça s'est venu aux oreilles de quelqu'un qui s'appelait Martine Dufour, qui était la femme de Bernard Dufour, le peintre, qui, elle, faisait de la décoration, et elle devait travailler avec ses marbriers. Et elle a dit, ah, mais c'est pas possible, on va... Essayons de racheter cet endroit pour vivre là. Et ils se sont groupés, ils ont divisé en 9 l'endroit. Ils ont pu l'acheter, à l'époque, ça coûtait rien, et ils l'ont divisé. Et donc, ils, au pluriel, c'est un groupe de gens dans lesquels il y a Paul Thévenin,
qui est donc la biographe d'Artaud.
Voilà, et c'est une de ceux qui ont sorti Artaud de Rodez. Il y avait donc Paul Thévenin, Claire Pollan.
Qui est la fille de Pollan.
La petite fille, oui.
Petite fille de Pollan.
Et qui est éditrice aussi aujourd'hui. Il y avait Jacques Henry, Catherine Millet, Denis Roche au bout d'un moment, et puis Françoise Perrault Roche. Il y avait Patrick Bouchain aussi au départ, qui est un architecte. Il était important dans le départ de cet
c'est
endroit.
C'est celui qui fait toutes les friches industrielles, qui Absolument. Est très connu, là, qui est Exactement. Très très célèbre Exactement. Pour réhabiliter Alors, toutes les friches industrielles.
Dans ton livre, on entre, mais on n'entre pas. On est toujours face à un mur. Hein. C'est très intéressant. Ça, quand on lit et on ne passe jamais de l'autre côté du mur, quand même. C'est comme si tout était off.
Alors, tu vois, ouais, le but n'était pas de décrire la vie à la fabrique, ni de rentrer dans l'intimité des uns et des autres, ni facilement de me dire « Ah, je suis la voisine de Catherine Millet, tiens, je vais en parler ». Non, d'abord, je trouverais ça
déplacé.
Déplacé, voilà. C'est pas le sujet du Marabout de Roche. Et donc, je pense qu'une... certaines distances, là aussi, et salutaire, tout point de vue, y compris du point de vue de l'écriture. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier livre, L'année du chat, il y a des prénoms, parce que L'année du chat se passe dans la cour de la fabrique, en l'occurrence, et que c'est l'histoire d'un chat qui est malade et qui meurt, et c'est confronté à la mort aussi, banale, d'un animal domestique qui est un chat, que je me rends compte à quel point ça n'est pas banal et que ça déclenche un livre. Et dans ce livre passe... une certaine Catherine, une certaine Françoise, un certain Denis, un certain Jacques, une certaine Claire, et ce sont les voisins. C'est Denis Roche, c'est Françoise Perrault Roche, c'est Catherine Millet, c'est Jacques Henrique, mais je ne le dis pas dans L'année du chat, parce que ça me semblait là aussi déplacé. Alors là, je le dis davantage, mais je ne cherche pas à me rapprocher, à raconter, commencer chez Catherine Millet et Jacques Henrique.
Ce que je trouve intéressant, c'est que très naturellement, tu rends dans un livre un espace off sans avoir besoin d'utiliser des procédés compliqués et tarabiscotés. Ça s'est fait naturellement comme ça.
On a un sens de l'espace tout le temps. Mais enfin, tu parles de la cour, tu parles des arts, tout ça. Donc on est...
Là, je parle beaucoup des arts, des
beaucoup,
oiseaux.
On est beaucoup dans la cour.
Ouais, on est beaucoup dans la cour. Et ça commence
comme
dans
à l'école, on est dans la cour.
Et ça commence dans la cour.
De récré.
Parce que le point de départ de Marabout de Roche, c'est quand même Denis Roche qui me le donne. Et c'est un jour très particulier. Parce que c'est le jour, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercacher, de la policière de Montrouge. On est le dimanche, on est en janvier 2015. Bon sang, cette date, c'est quoi déjà? C'est le Charlie Hebdo, c'est le 7, l'hypercacher, c'est le 8. Donc on est quelques jours après, le 11 janvier, je crois, 2015. Et Denis est dans la cour, assis sur les fameux bancs. Il y a deux bancs dans la cour, comme je le dis dans Marabout de Roche. Il est là, il est en train de fumer une cigarette. Et puis moi, je reviens, je suis allée faire des courses et il me hèle comme ça, alors que je l'ai vu. Puis je me dis, il fume tranquille, je ne vais pas aller l'embêter. Et puis il m'appelle, alors j'y vais. Et puis il me dit, alors tu vas à la manifestation cet après-midi. Il dit, non, je ne peux pas, je suis trop fatiguée. Et puis là, il m'apprend qu'il est malade, et gravement malade. Et là, tout d'un coup, c'est ce jour-là, c'est-à-dire ce jour où la mort est partout, elle est très présente, très présente depuis plusieurs jours et de façon extrême, même si ce n'est pas directement dans nos vies, aux uns et aux autres directement, parce qu'on n'est pas mort, soi, ou quelqu'un de très proche, mais c'est les gens de Charlie Hebdo, et tout d'un coup, ils nous semblent proches, évidemment. Moi, il me semble, il y en a un qui est mon ancien prof d'économie, qui est Bernard Maris, que j'ai eu comme prof d'économie. Donc, tout d'un coup, c'est un proche aussi. Et de toute façon, tout ça, et enfin, moi, je sais que...
C'est nous, on est concernés.
On est concernés, quoi. Enfin, je veux dire, je pleure, quoi, après ce qui se passe. Comme si c'était...
Moi, j'ai failli aller manger dans le restaurant thaïlandais, là où ils ont tué des gens.
Ah, c'est vrai.
J'étais à une exposition de photos... dans un magasin de photos qui est à côté de...
Mais là, tu parles du Bataclan, tu parles du 13 novembre ?
Je parle du Bataclan.
Ouais, tu parles de ça, c'est
ce jour-là, ouais.
Alors que là, je parle du moment de janvier 2015. Donc, c'est ce jour-là qui est rempli de morts. Bon, et Denis m'apprend qu'il est gravement malade. Et ça commence là, en fait. Ça commence dans la cour. Voilà, ça commence. Et ça commence avec la mort. Et Denis... Des années après, en 2019, quand je lis ce fameux livre qui vient de paraître à ce moment-là, ce manuscrit qui était resté dans un tiroir et que Françoise a ressorti.
Des extraits de son journal intime.
Et c'est son journal, mais qu'il a appelé « Temps profond, essai de littérature arrêtée ». Il y a cette phrase qui est rentrer dans un livre ou commencer un livre, c'est comme aller taper... à la porte d'un tombeau pour voir le bruit qu'on fait dedans. Le bruit, là, c'est l'oreille aussi, l'écriture. Je ne sais plus quelle était la question.
C'était ça, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le livre ?
Non, les voisins.
Oui, on a, c'est générationnel, enfin, on a un portrait, quand même, ça, dans les retours que tu as, je pense que c'est très souligné. Tu dois déjà avoir eu un certain nombre d'articles, des commentaires.
Oui, plusieurs notes de lecture. Ça dépend. Il y a Vincent Roy qui écrit dans l'Humanité, qui a écrit un texte en disant qu'il appelle ça une mosaïque, le portrait en mosaïque, je crois qu'il a titré ça. Et lui, j'ai l'impression qu'il a connu Denis Roche, ou en tout cas qu'il connaît bien l'œuvre de Denis Roche. Et il dit que, je sais plus, il termine son texte en disant que j'ai le point. C'est-à-dire que pour lui, je me suis bien approchée du voilà, j'ai le point. Et puis il y a d'autres recensions très différentes.
C'est la flèche dans la Divine
Comédie. Il y en a une qui me touche beaucoup, qui est celle de quelqu'un que je ne connais pas et dont je ne lisais pas jusqu'à présent le blog, qui s'appelle Florence Trocmé, qui fait un blog qui s'appelle Poésie Bao, et un autre qui s'appelle son flottoir. Flottoir. Et elle fait un travail qui est magnifique, vraiment, où elle fait dans le flottoir un journal de ses lectures. Enfin, c'est vraiment. Et dans son site Poésie Bao, elle est censée faire. Enfin, elle suit l'actualité de la poésie contemporaine, mais il y a beaucoup de prose. Voilà. La preuve d'ailleurs, c'est qu'elle parle de Marabout de Roche, et elle n'en parle pas seulement parce que c'est à propos de Denis Roche, qui était considéré comme un poète. Elle en parle pour d'autres raisons, et elle a prévu d'ailleurs d'en reparler, je ne sais pas du tout comment, dans son flottoir dans 10 jours. Donc ça m'a frappée. Après, il y a eu d'autres... globalement, il y a eu une autre recension... sur le site Citodis, qui est aussi un site de poésie sur la poésie contemporaine, par Bertrand Verdier. Alors là, c'est un texte qui est beaucoup plus savant, mais qui est aussi très assez positif sur l'approche du texte, l'approche de Denis Roche par ce texte, alors, qui est une autre approche que, par exemple, Éloge de la véhémence de Jean-Marie Glaise, qui a paru en même temps que Temps profond, et Glaise étant un spécialiste vraiment de Roche. Je ne sais plus quelle était ta question.
Moi non plus. on traque quelqu'un.
On cherche.
On appelle Roche. L'esprit. Denis, es-tu là
On tape dans le tombeau. Mais non, après, je ne sais pas, on aurait peut-être pu lire des extraits si tu veux, j'en sais rien.
Lire des extraits du livre.
Ouais. Non, je ne sais pas. Non, je suis.
Je crois que ça. Je pense qu'on n'est pas dans la meilleure condition.
Pour lire, ouais.
Pour lire, au niveau des micros, tout ça. Tu vois, d'accord. Mais, ça se lit avec plaisir et assez facilement. Enfin, c'est vraiment. C'est une espèce de portrait impressionniste, quand même, en petite touche.
Oui.
Hein, c'est ça. Ça vibre, on est dans le jardin, il y a des plantes, il y a des boîtes, il y a des gens,
il y a des, oiseaux.
Il y a des oiseaux.
Beaucoup d'oiseaux, oui.
Beaucoup d'oiseaux, et ben c'est un petit peu une histoire ancienne.
C'est une tradition, c'est comme quelqu'un, c'est comme un voisin de Marat. Pendant la Révolution, il y a eu des choses comme ça, qui avaient ses mémoires. Voilà, j'étais voisin de Marat.
Ah, c'est vrai.
ce cas-là, je pense, n'existe pas.
Mais ah bon, d'accord.
Comment il s'appelle
J'en ai dans des vieux 10-18, des trucs comme ça.
Le mec qui décrit.
Et la réponse, Paris est à feu et à sang, et la vie quotidienne continue en réalité dans l'immeuble, etc.
C'est ce qu'on
entend dire qu'à 500 mètres, il y a des exécutions.
Non, mais peut-être, moi je reviendrai bien sur l'histoire de ce que Denis, je crois, appelle l'écriture sèche, à un moment donné.
Ah oui.
Et c'est dans Temps profond. À un moment donné, et je le souligne là, dans Marabout de Roche, il donne deux exemples de textes, j'y pense parce que tu évoques une situation de guerre où la vie concrète continue. Et bien sûr, la vie, elle continue toujours dans les pires situations. Et. Là, il évoque, pendant la guerre, le témoignage, un roman qui raconte des pilotes, une situation de guerre où des pilotes reviennent. Et donc, on lit, mais en fait, on s'ennuie assez vite. La façon dont c'est écrit, moi, en tout cas, je ne rentre pas dans le texte.
Parce que c'est un point de vue sérieux.
Je ne rentre pas dans le texte, effectivement, parce qu'il y a deux, trois clichés toutes les X phrases. Et donc, c'est bien fabriqué, le truc. Mais... Et puis, après, il donne le récit d'un témoignage d'un pilote qui revient et qui raconte, comme ça, de façon extrêmement factuelle, c'est ça. Et on est dedans. Et alors là, à ce moment-là, on est absolument dans le texte et dans la situation. Et en fait, il y a une sorte de démonstration comme ça de ce qu'est d'une écriture qui n'en rajoute pas, à un moment donné, qui est précise et qui est en même temps documentée. C'est-à-dire que celui qui raconte a réellement vécu ce qui s'est passé, ou d'ailleurs, s'il ne l'avait pas réellement vécu, il aurait fallu, je ne sais pas moi, qu'il ait engrangé une espèce d'expérience comme ça qui lui permettrait concrètement d'aller à l'essentiel et de nous faire, avec une écriture particulière, rentrer dans une situation et qu'on ne puisse pas y résister d'une certaine manière. Alors que, et à un moment, il fait référence au roman américain qu'il aimait, il y avait plein de romans américains qu'il aimait beaucoup, mais il dit sorte de bibendum moderne, il parle de ça, en disant, et il veut parler des choses qui sont très fabriquées comme ça, qui sont très. On est à un moment de rentrée littéraire et on pourrait en parler, mais on ne va pas en parler du côté fabriqué, etc.
Mais la sélection du Goncourt cette année.
Je ne sais pas, je n'ai pas trop regardé. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Le style de la maison d'édition.
Dans cette recherche sur l'écriture, moi, cette dimension m'intéresse beaucoup. Et les voisins, puisqu'on parlait des voisins tout à l'heure de la fabrique. Quelqu'un comme Catherine Millet, ou quelqu'un comme Jacques Henric, par exemple... Ce sont des écritures qui sont différentes, mais il me semble qu'il y a quelque chose une recherche commune, même si ça donne des résultats qui sont différents, mais il y a un aiguillon commun, presque, sur la recherche du mot juste, ou alors du mot qui sonne juste, mais les deux.
Une forme commune.
Sans en rajouter, sans partir dans de la mièvrerie, sans partir dans de la démagogie, sans partir dans de l'idéologie facile, sans partir... Voilà. Il y a quelques... Mais après, je me trompe peut-être totalement, c'est comme ça que je...
Mais il y a un portrait...
Faut pas faire
il y a un portrait générationnel. C'est marrant parce que ça commence par des attentats, mais c'est une génération qui n'a pas connu la guerre. Et donc, on a une dimension... On a une absence d'héroïsme absolument totale. Qu'il soit réel ou mensonger, cet héroïsme, qu'il soit fictionné, ou... il n'y a pas eu de terrain héroïque. C'est pour ça, par exemple, j'ai commencé avec Le Nouveau Désordre Amoureux. C'est un livre fourriériste. C'est une espèce de miracle. Les mecs, alors, ils sont quand même devenus Bruckner et Finkielkraut tels qu'ils existent aujourd'hui. Donc là, il y a... Bruckner était chez Barthes. C'est des enfants de Bard, mais d'un Bard d'une légèreté absolument inouïe, qui est quand même celui qu'on peut sauver le plus à travers ses modernismes pour ses approches. Et donc on a un portrait générationnel. La fabrique abrite un moment générationnel de gens qui sont confrontés à cette génération qui a fait la guerre, qui était dans un espèce de pathos, avec plus ou moins de pathos, mais qui avait un pathos légitime, hein, ou qui était des figures héroïques comme Camus et Sartre, absolument sans aucune raison, qui sont héroïcisés après-guerre parce que Sartre allait tous les jours au Flore, et qu'il ne faisait pas très chaud au Flore. Enfin, c'est totalement aberrant, mais c'est comme ça. L'histoire leur appartient. Et là, De Niro, c'est quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Par exemple, quand il va à Trinidad, tout son rapport à ce Trinidad ne fait jamais, ne prend pas forme. Mais ça ressemble aussi à des romans américains, à Carver, par exemple, à des nouvelles de Carver. Il y a quelque chose, de minime.
Après, tu parles.
Duras, quand elle parle de quelqu'un qui attend quelqu'un dans un hôtel, faire des choses avec rien, tu vois.
Alors, Duras,
elle a une histoire.
Je ne suis pas trop d'accord sur le rapprochement entre Sartre et Camus, même si. Et le fait qu'ils appartiendraient totalement à une autre période, etc. Parce que pour ce qui est de Camus. Et d'un texte de Camus qui, pour moi, est de l'écriture sèche, concise, qui est L'étranger, que je relis assez régulièrement, que Duras relisait régulièrement, et qui, pour moi, est relié à ça, alors que Sartre, c'est complètement autre chose.
Non, mais
Et puis, d'ailleurs, c'est Duras qui disait que Sartre n'avait pas écrit, ce qui me fait beaucoup rire. voilà.
Roche aurait publié les mots de Sartre. C'est pas une,
c'est bien les mots de Sartre. Moi,
c'est très, très bien. C'est pas du tout. Et puis, c'est un livre qui va tout à fait dans le sens de fiction et compagnie, si tu veux.
C'est très, très réussi.
Le carnet de la drôle de guerre.
Oui, bien sûr.
Tout à fait.
Et donc, c'est pas une critique. C'est une espèce de constatation objective sur le fait que l'histoire ne frappe pas à la porte et ne fait pas récit. Tu vois, il n'y a pas. Les autres étaient portés.
Parce qu'ils s'en méfient.
On vit par procuration, là. Il y a une espèce de. Et donc, cette génération telle quelle, tout ça, support surface.
Ils se méfient de l'histoire, oui, tu as raison.
Ils détricotent un tricot qui est déjà défait.
On voit très bien qu'il y a une rupture avec Solaire à propos du maoïsme, d'ailleurs.
Ouais.
On sent que c'est sous-entendu, on le sent, ça.
Et on n'y croit pas, nous, aux maoïstes, des maoïstes.
Heureusement que maoïsme de
on n'y croit pas du
pas
tout. après, il va soutenir le pape à la dure. Enfin, tu vois, on croit rien. Lui, c'est un bon exemple de changement de veste. En fait, c'était vraiment très, très rapide. Mais c'était le... Bourdieu le détestait pour ça, sur le truc.
Ah oui.
Cette absence de croyance.
Enfin, qu'est-ce qu'il détestait, Bourdieu ?
Solaire sur le changement. Référent idéologique chez Solaire, c'est à toute vitesse. Mais enfin, c'est un détail, ça n'a aucune importance. Mais c'était un portrait de général. À travers De Niro, je pense que tu touches quand même quelque chose qui est un paradigme, qui est un moment pour parler comme les structuralistes.
Comme un moment, oui.
Et qui est un moment. C'est le début de quelque chose qui est enclenché, là, qui sera l'histoire de cette génération.
Peut-être.
Et la fabrique est très représentative, évidemment. Il y a une forte concentration là, de gens. Enfin, Art Press, tu vois, c'est quand même, c'est pas rien, c'est quelque chose. C'est le portrait d'une génération, bien sûr.
Je sais pas.
Bah, t'imagines l'histoire d'Art Press. Enfin, c'est ça, quoi. C'est l'espèce de. C'est le journal officiel des artistes vivants. Boltanski vient de mourir, enfin, tu vois,
Le journal officiel des artistes vivants, c'est pas mal.
Qui était vivant, le conceptuel, tout ce qui est avec, par exemple, Paul Armangette ne rentre pas là-dedans parce qu'il est trop transgressif.
Ouais.
Parce que Quatrimier, paradoxalement, n'est pas transgressif. C'est un de ses paradoxes. Il n'y a pas de perversité. C'est une espèce de premier degré de la sexualité libérée. Très réussi. Et ça a marché, très très réussi.
Oui, mais elle n'a pas écrit que ça, Catherine.
Ah non, non, elle a fait Salvador Dali, par exemple, oui. C'est toujours la même chose. Son Salvador Dali est plein de perversité. Parce qu'il y a c'est une apologie de l'exhibitionnisme, le Salvador Dali, entre autres. Donc on est dans des choses qui n'ont
pas. Non, mais si tu as lu le texte sur son enfance ou.
J'ai pas lu La Jalousie, là. Ça s'appelle comme ça, non?
Ça s'appelle pas La Jalousie, non, ça s'appelle Jour de souffrance. Jour de souffrance, ouais.
Mais. C'est pas des jugements de valeur. Hein.
Oui, ce que tu dis, oui, d'accord.
Il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a pas...
Parce que pour moi, Catherine Millet, c'est une écriture qui est...
J'étais très, très impressionné. J'étais très impressionné par les 650 pages de poésie de Niroche. De pas avoir... Je suis en train de lire le journal de Kafka, par exemple. Ouais. C'est une traduction qui est anti-littéraire, mais j'ai encore trouvé de quoi recopier 3-4 phrases, tu vois, par exemple, une phrase très très belle, tu vois. Et chez Denis Roche, arrivé à faire 650 pages sans que tu puisses retenir une seule phrase, qui est rien, qui est recueil, ça m'a... j'ai trouvé ça formidable, tu vois, c'est la grande roue à la foire du trône quand t'es déjà sous, quoi, enfin, c'est un truc...
C'est
centrifugeuse, la centrifugeuse...
Dans Marabout de Roche, je dis à un moment donné que justement, quand je me plonge dans ces textes-là, les dépôts de savoir et de technique, tout ça, le mécrit et tout, je suis complètement déboussolée. Enfin,
bah, il y a de quoi, oui.
Complètement déboussolée. Et donc, je lis quand même, mais en fait, sur le fond, je ne suis pas d'accord avec lui, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire, je veux dire.
Oui, j'entends bien.
Je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'il fait ce qu'il veut. Donc, voilà. Mais moi, je ne l'aurais pas fait.
Voilà.
Je ne sais pas si je peux dire. Mais ça ne me dérange pas.
Si tu lis les essais de Julien Gracq, par exemple, ça ressemble à... Ou la littérature à l'estomac, enfin, des choses comme ça. On est déjà dans ce mouvement, puisque tu parlais de L'Étranger de Camus.
Oui.
Mais après, si tu lis un roman de Gracq, ça paraît extrêmement surchargé et sucré par rapport à la démarche de Roche.
Alors, moi, j'aime...
Ça paraît trop riche.
Je lis Julien Gracq, mais rarement les fictions.
Ouais,
je lis
ça.
Les carnets, les vitrines.
On est déjà là-dedans. On est totalement là-dedans. Voilà. Oui. Tout à fait. Ouais. On est tout à fait dans ce... Il n'y a pas de pâteau. Il n'y a pas de
bruit.
Même si un balcon en forêt, par exemple, c'est tellement ample et maîtrisé que bon, c'est quand même quelque chose. Voilà.
Mais je vois le désert des Tartares, bon, ce sont des images vides, etc. Et donc, il y a aussi dans ton livre une francicité, un portrait de la France, à un moment donné, de la littérature française, mais c'est toute une histoire, quoi. Parce que si on pense à nos voisins italiens, on est dans une dimension tellement différente, il y a encore tout un substrat populaire, par exemple, qui ici a totalement disparu. Peut-être que Céline l'a refermé sur lui-même, tu vois, qui est pas de...
Ou ah non, parce
qui se manifeste
justement...
dans des genres populaires comme le roman policier qui se manifeste à la marche.
Ou dans des genres pas populaires du tout, parce que vraiment expérimentaux ou poétiques au sens réel du terme, on va dire, comme le livre de Christian Prigent, Chino au jardin, où tu as une recherche qui a à voir en partie avec la langue de Rabelais, avec des